Les relations entre parents et enfants devraient être aussi saines qu'entre employeurs et employés. Mais comment atteindre cet équilibre et le conserver? La Bible nous guide vers une réponse à cette question. Bienvenue à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Claude. Le sujet que nous abordons aujourd'hui touche nos relations en tant que parents, enfants, employeurs ou employés. La Bible, la parole inspirée de Dieu, nous donne des directives claires pour vivre des relations saines et constructives avec les personnes en autorité autour de nous. Et elle apporte des nuances importantes qui servent à nous guider dans les relations parents-enfants et les relations patron-employés. Si nous voulons bien l'admettre, les relations parents-enfants et employeurs-employés sont souvent très difficiles et complexes. D'abord, il y a la question de l'autorité. Le parent a autorité sur son enfant, et de même, le patron est en autorité au-dessus de son employé. Soumission et respect, amour et discipline doivent alors être pratiqués de la bonne façon pour que les relations se fortifient et qu'ensemble, la famille et la société se développent. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et lorsque ça l'est, ce n'est pas sans difficulté. Nous en concluons que sans l'enseignement de la Bible et l'aide d'en haut, ces relations parents-enfants, employeurs-employés deviennent tout simplement impossibles. Un véritable casse-tête. Comme on dit, quand tout le monde tire la couverte de son bord, elle finit par déchirer. Maintenant, est-ce que l'enseignement contenu dans la Bible peut encore nous éclairer aujourd'hui? Peut-elle vraiment nous aider de façon pratique à vivre des relations saines et constructives? La Bible, en effet, a beaucoup de bons conseils à nous apporter. Elle répond, entre autres, aux questions suivantes. Est-ce que les enfants sont tenus d'honorer leurs parents, même après avoir quitté la maison? Pour un père et une mère, quelle est la différence entre discipliner et irriter son enfant? Est-il important de discipliner son enfant et comment le faire? Est-ce que l'éducation des enfants passe avant ou après le ministère dans l'église locale? Quel guide devons-nous suivre pour corriger efficacement nos enfants? Avec quelle attitude les employés chrétiens devraient-ils travailler aujourd'hui? Est-ce que la nature de l'Évangile condamne ou encourage l'esclavage? Comment la puissance de l'Évangile détruit-elle les préjugés raciaux? Est-ce OK pour un employé chrétien de flatter son employeur lorsqu'il est présent et médire de lui lorsqu'il est absent? Et comment parvenir à une liberté parfaite à tous égards et y demeurer libre? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly nous apporte maintenant des réponses tirées de la Bible à ces questions. Mais d'abord, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Prions. Notre Dieu, notre Père, par ton Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à nous éclairer, à nous aider à comprendre ce que ta parole enseigne sur ces questions et à les mettre en pratique. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Nous avons vu qu'Adam et Ève, le premier couple, étaient une image de la relation entre le Seigneur Jésus et son Église. En effet, l'Église comparaîtra devant le Seigneur aux noces de l'agneau et elle deviendra son épouse, sainte et irréprochable. Nous avons vu que le lien du mariage a la priorité sur tous les autres liens. Une fois qu'un homme prend une femme, il doit quitter son père et sa mère. Ceux-ci n'ont plus d'autorité sur eux, sur leurs enfants. L'homme dirige son propre foyer. Cependant, un chrétien est toujours tenu d'honorer ses parents. Il doit pourvoir à leurs besoins lorsque c'est nécessaire et il peut toujours les consulter s'il y a des problèmes. Nous avons ensuite débuté le chapitre 6. Dans ce chapitre, l'Église est présentée comme un soldat. La formation d'un soldat, soit pour l'armée, soit pour le service du Seigneur, débute lorsque le petit enfant est dans son foyer avec ses parents. C'est là que les rudiments de la discipline sont enseignés, et ces rudiments sont nécessaires pour réussir dans la vie. Nous avons vu qu'il y a une distinction entre l'obéissance des enfants et la soumission de l'épouse. L'épouse se soumet volontairement à son mari qui l'aime et qui recherche son bien. C'est la façon biblique de retourner son amour. L'enfant obéit comme un serviteur obéit à son employeur. L'épouse est l'égale de son mari, mais pas l'enfant. Nous vous avons aussi rappelé que l'Épître aux Éphésiens s'adresse à des croyants. Seul un croyant peut faire quelque chose selon le Seigneur. Seul un croyant a l'Esprit de Dieu qui lui permet de fonctionner selon les voies de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les enfants sont tenus d'honorer leurs parents. Un enfant qui demeure chez son père et sa mère doit les honorer. Une fois qu'il a grandi et qu'il a quitté le foyer, il doit toujours les honorer par sa façon de vivre. Le commandement d'honorer ses parents est accompagné d'une promesse d'une vie longue pour ceux qui l'observent. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode, chapitre 20, verset 12. Cette promesse est répétée dans le texte que nous examinons. C'est le seul commandement avec une promesse s'il est suivi. Les autres commandements promettent des conséquences s'ils ne sont pas respectés, mais ne promettent rien s'ils sont observés. Samson et Absalom sont deux exemples bibliques d'enfants qui n'ont pas honoré leurs parents et ils moururent jeunes. Samson, un juge en Israël, est mort alors qu'il était encore jeune. Il n'a pas voulu suivre les conseils de ses parents lorsqu'il fut question de mariage. Il préféra une païenne à une fille d'Israël. Ensuite, il alla vers les prostituées. Absalom tenta d'usurper le trône de son père. Il s'est rebellé contre son père qui n'avait rien fait lorsqu'Amon viola sa sœur Tamar. Absalom fut chassé après s'être lui-même fait justice. Lorsqu'il revint, il se rebella contre son père. Revenons à notre texte, verset 4 d'Éphésiens 6. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les pères ne doivent pas irriter leurs enfants. Dieu nous demande de discipliner nos enfants et de les instruire dans les voies de Dieu. Les pères ne doivent pas irriter leurs enfants. Un tel commandement ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais sous la grâce. Il y a toujours des responsabilités mutuelles. Si le père a l'autorité sur son enfant, il ne doit pas s'en servir pour se décharger de ses frustrations en revenant du travail. Il ne doit jamais discipliner sous l'impulsion d'une crise de colère. Non seulement est-ce que les parents doivent enseigner les vérités bibliques, mais ils doivent aussi les démontrer en fonctionnant selon celles-ci. L'enfant doit voir ses parents marcher dans les voies de Dieu. Nous ne devons pas irriter nos enfants. Un croyant doit vivre comme un croyant à la maison, pas seulement à l'église ou en public. Ici, le mot « père » comprend aussi la mère. L'accent est mis sur le père, car la discipline et la formation des enfants sont sa responsabilité. Cependant, cela n'exclut pas la mère qui peut avoir à exercer la discipline. Les enfants doivent être disciplinés. Chers amis, il ne faut pas irriter les enfants. Si vous notez de la colère chez vos enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Cependant, il ne faut pas considérer les enfants comme étant aussi fragiles qu'une fleur ou qu'une assiette de porcelaine. Chaque fois que cela est nécessaire, il faut exercer une forme de discipline appropriée à la situation. L'auteur des Proverbes a dit ceci. « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. » Proverbes 14, verset 24 de la Bible du Semeur. « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. » Proverbe 19, verset 18. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Proverbe 22, verset 15, toujours de la Bible du Semeur. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Le Proverbe 23, verset 13 et 14. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Le Proverbe 29, versets 15 et 17. Les petits enfants qui refusent d'obéir doivent être punis. Aucune forme de discipline ne doit être exercée sous le coup de la colère. Cela est dit clairement. Nous ne devons pas irriter nos enfants, ce que nous faisons lorsque nous nous déchargeons de notre colère sur eux. Les enfants doivent être disciplinés pour leur bien, pas parce que les parents perdent le contrôle d'eux-mêmes. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Un enfant dans un foyer chrétien devrait recevoir de l'enseignement chrétien afin qu'il en vienne à avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus et qu'il soit fortifié le jour où il sera parmi le monde. Chaque parent devrait avoir le privilège de conduire son enfant au Seigneur Jésus. Nos enfants doivent être notre priorité. Voici ce que raconte J. Vernon McGee, le pasteur et prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes. « Je n'ai jamais permis que mon épouse devienne l'adjointe du pasteur. J'ai toujours insisté pour qu'il en soit ainsi. Je n'ai jamais permis qu'elle devienne la présidente de la société missionnaire ou de tout autre comité féminin des églises dont j'ai été pasteur. Lorsque j'acceptais un pastorat, je disais au conseil de l'église, « Ma femme est mon épouse. Elle n'est pas mon adjointe pour le pastorat. Ses fonctions consistent à s'occuper du foyer et des enfants. Je pense que cela est très important. Ma femme a eu un privilège que peu de femmes ont aujourd'hui. Elle visitait sa mère alors que je donnais une conférence dans un autre état. Notre fille avait 7 ou 8 ans. Elle vint trouver sa mère et lui dit, « Maman, je veux recevoir le Seigneur Jésus. » Ma femme conduisit notre fille dans la chambre à coucher, s'agenouilla avec elle et elle eut le privilège de conduire sa propre fille au Seigneur. J'ai toujours pensé que cela était plus important qu'une tâche dans l'Église. Je connais de nombreuses personnes très impliquées dans l'Église, mais dont les enfants ne les ont jamais suivies dans les voies du Seigneur. Mes amis, votre première responsabilité est envers vos enfants. Préoccupez-vous premièrement de votre enfant plutôt que de vous occuper de toutes sortes de choses ou d'essayer d'enseigner aux autres à élever leurs enfants. Je sais que je ne gagnerai pas de concours de popularité avec une telle affirmation. Mais la parole de Dieu est claire. Nous sommes responsables de nos enfants. Fin de la citation. Toute correction doit être faite selon le Seigneur, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Notez que la correction doit être selon le Seigneur. La discipline et l'instruction doivent se faire au nom du Seigneur. Ceci est très important. L'apôtre Paul a introduit le sujet de la soumission dans le foyer en traitant de la relation entre un homme et sa femme. Ensuite, en traitant de la relation entre les parents et les enfants. Maintenant, il sort du foyer pour aller dans la rue, les ateliers et les centres commerciaux. C'est une situation différente, car il n'y a pas le même lien d'amour que nous retrouvons dans un foyer. Cependant, les enfants de Dieu qui sont remplis de l'Esprit doivent se soumettre les uns aux autres. Lisons notre texte, Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Nous devons servir de tout notre cœur comme pour le Seigneur. Les serviteurs, littéralement les esclaves, doivent obéir à leurs maîtres humains, les maîtres qu'ils ont sur terre. Les serviteurs, employés dans notre société contemporaine, ne doivent pas travailler avec un œil sur l'horloge ou seulement lorsque le patron ou le superviseur est présent. Ils ne doivent pas chercher à plaire à un homme. Ils ne doivent pas chercher à charmer ou à flatter leur employeur. Nous devons servir nos employeurs parce que nous sommes premièrement des serviteurs du Seigneur Jésus. Nous devons servir de tout notre cœur comme pour le Seigneur. L'employé a certaines responsabilités tout comme l'employeur. Nous parlons ici de la relation employeur-employé. Au temps de l'apôtre Paul, la séparation entre les deux était beaucoup plus prononcée qu'aujourd'hui. C'était vraiment une relation maître-esclave. Rappelez-vous que cette section a débuté au chapitre 5, verset 21, par ces mots. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Ceci semble bien pour le dimanche, pendant que les chrétiens se rencontrent à l'église. Mais qu'en est-il au travail le lundi matin? Les employés chrétiens qui travaillent pour une usine qui appartient à un chrétien n'ont pas besoin d'un représentant syndical pour dire au patron comment gérer son entreprise. Il existe plusieurs entreprises gérées par des chrétiens fidèles. Les employés se réunissent pour prier sur le temps de la compagnie et le patron les paie tout de même. Ces entreprises sont prospères et Dieu les bénit. Elles n'ont pas besoin de syndicats. Un employé d'une de ces entreprises a déclaré « Si nous avions un syndicat, nous ne gagnerions pas autant. » Nous parlons ici de véritables chrétiens, des employés, des employeurs chrétiens, des gens qui aiment Dieu et sa parole. La nature de l'Évangile condamne l'esclavage. Les recherches historiques indiquent qu'il y avait probablement environ 120 millions d'esclaves dans l'Empire romain. Le christianisme ne s'en est jamais pris au fléau de l'esclavage. Le christianisme est allé vers l'esclave dans son état d'humiliation et l'a élevé en lui assurant de sa liberté en Jésus-Christ. La nature de l'Évangile condamne l'esclavage. Il a éventuellement brisé les chaînes qui retenaient les esclaves et il a rompu les fers qui liaient leur esprit et leur âme. Une grande multitude d'esclaves sont venus au Seigneur Jésus, tels que nous pouvons lire dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains. Plusieurs des personnes nommées étaient des esclaves ou des membres de la garde romaine. Aujourd'hui, les préjugés raciaux sont des murs de séparation. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Notez que la parole de Dieu leur dit d'être obéissants. Le christianisme n'est pas parti en croisade pour combattre la pratique de l'esclavage. Le christianisme a prêché un évangile plus révolutionnaire qu'une révolte. Les révoltes ont toujours laissé de l'amertume et de la haine derrière elles, et cette haine perdure pendant des siècles. Regardez la Yougoslavie. Lorsque le maréchal Tito régna en dictateur, il a empêché les groupes ethniques de s'entretuer pendant plusieurs décennies. Cependant, lorsqu'il est mort, les guerres interethniques ont repris et nous furent témoins de génocides. La haine engendrée par les révoltes et les guerres dure longtemps après que les conflits soient terminés. Un rien peut les rallumer. Seul l'Évangile peut renverser un tel mur de séparation. Aujourd'hui, les préjugés raciaux sont des murs de séparation. L'Évangile remplace de tels murs par l'amour fraternel, un vrai miracle. Si la parole de Dieu était encore prêchée comme au temps des réveils, et si ceux qui se disent chrétiens étaient obéissants et loyaux envers ceux à qui ils doivent l'être, cela transformerait notre société contemporaine. Un homme n'est pas un chrétien parce qu'il a fait une profession de foi et que le dimanche il affirme l'être. Si une personne est un véritable croyant, cela se voit dans sa loyauté envers son employeur, envers sa famille, envers son foyer, son église et son pasteur. Si un chrétien n'est pas loyal dans un de ces domaines, il est probablement déloyal envers le Seigneur Jésus. Il ne peut témoigner de façon efficace pour le Seigneur Jésus. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Ce verset indique clairement que l'esclavage s'applique seulement au corps et non à l'âme des esclaves. Cette obéissance devait se faire avec crainte et tremblement. Ceci ne veut pas dire s'abaisser et s'humilier devant le maître, mais de le traiter avec respect et dignité. Servons sans hypocrisie. Dans la simplicité de votre cœur, il ne doit pas y avoir le moindre soupçon d'hypocrisie dans le cœur du serviteur. Il ne doit pas y avoir de flatterie de l'employeur lorsqu'il est présent et des médisances lorsqu'il est absent. Un chrétien ne doit jamais se comporter de cette façon. L'obéissance du serviteur doit se faire comme à Christ. L'esclave a maintenant été élevé de sa position d'humiliation alors qu'il travaillait à contre-cœur, en faisant le moins possible, et si seulement lorsque son maître était présent. Maintenant, il est un esclave du Seigneur Jésus, et celui-ci l'a libéré. Il doit regarder plus haut que la tête de son maître terrestre et essayer de plaire à son maître céleste. Un maître terrestre ne peut que contrôler le corps de son esclave. Les esclaves du Seigneur Jésus lui ont cédé leur âme et leur personnalité entière. Rappelez-vous que l'apôtre Paul s'appelait l'esclave du Seigneur Jésus. Servez-les avec empressement. Leur attitude devrait refléter leur service chrétien. Lorsqu'un enfant de Dieu, qu'il soit employeur ou employé, en est au point où sa motivation est de plaire au Seigneur Jésus, alors les obstacles entre les employeurs et les employés devraient se surmonter facilement. De nos jours, nous faisons face à un nouveau type d'esclavage dans tous les pays du monde. Dans notre société contemporaine, nous observons un esclavage de l'esprit. Ce type de l'esclavage est plus pernicieux que celui de l'Empire romain. Des milliers de personnes rejettent le christianisme pour se tourner vers d'autres idéologies. Donnez à ces idéologies le nom que vous désirez. Certains croient à la libre entreprise, d'autres croient au socialisme. Certains pensent que pour obtenir une société prospère et heureuse, il faut un régime démocratique. D'autres s'appuient sur des théories économiques. Ils pensent que la pauvreté est responsable de nos problèmes sociaux. Mais le véritable problème est le cœur de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Parole du Seigneur rapportée par l'évangéliste Matthieu, chapitre 15, verset 19. Seul le Seigneur Jésus pourra établir une société où tous seront prospères et heureux. Nous devons faire des efforts, mais notre but ne sera pas atteint avant le retour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui peut rompre les chaînes d'un homme? Seulement la puissance de l'Évangile. Oui, chers amis, la puissance de l'Évangile. Écoutez attentivement ce texte. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jean chapitre 8 verset 36. C'est le Seigneur Jésus qui peut nous donner la liberté. Des milliers de personnes sont dépendantes de la drogue, de l'alcool, du tabac, de la pornographie, du jeu. Il y a beaucoup d'esclaves autour de nous. Nous devrions être esclaves du Seigneur Jésus et de personne d'autre. Saul de Tarse était esclave de l'idéologie des pharisiens. Lorsqu'il vint au Seigneur Jésus, il fut libéré. Mais il s'est soumis immédiatement à un nouveau maître en disant, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Actes chapitre 9, verset 6. Saul de Tarse était devenu l'apôtre Paul, un serviteur du Seigneur Jésus. Quel que soit son emploi, simple ouvrier ou poste de direction, emploi sous terre ou sur la mer, un chrétien peut dire « Je sers mon maître, je sers le Seigneur Jésus. » William Carey était un cordonnier qui a fait une demande pour aller en mission. Quelqu'un lui a demandé « Quel est ton métier ?» Il désirait humilier Carey qui n'était pas un pasteur mis à part ou ordonné. Carey répondit « Mon travail, c'est servir le Seigneur Jésus. » Et je fabrique des souliers pour payer les frais. Et vous, de qui êtes-vous serviteur? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 10.
Merci Régent d'avoir apporté des précisions avec la Bible sur ces sujets. Comme il est bon d'avoir la Bible et le Saint-Esprit pour nous éclairer et nous aider à mettre en pratique ces enseignements. Personnellement, je trouve que lorsque ma relation avec Dieu est bonne, ma relation avec mes enfants est aussi bonne. Et c'est la même chose dans mes relations avec mon patron et les gens qui travaillent pour moi en quelque sorte. Je trouve que la qualité de ma relation avec Dieu a un impact direct sur mes relations avec les autres. D'abord, je réalise que je dois me soumettre à Dieu dans ma vie. Ce n'est pas toujours facile, je l'admets. Mais lorsque je me soumets volontairement à Dieu, je trouve la force de me soumettre aussi à mon patron. Ça devient plus facile à ce niveau. Et même, ma soumission à Dieu a aussi une conséquence sur les autres qui me servent. Ils se soumettent à moi volontiers. Je pense à mes enfants maintenant. Je dois toujours faire des efforts pour être honnête avec eux, être transparent dans ma relation avec eux. Il arrive parfois que je doive piler sur mon orgueil et leur confesser mes fautes envers eux. Ce n'est jamais facile. Mais comme c'est bon pour notre relation. En tout cas, quand j'admets mon erreur, je vois chez mes enfants des yeux bien ouverts et des oreilles bien attentives. J'ai toute leur attention, croyez-moi. Mais au lieu de former en eux des enfants rebelles, j'ai remarqué que ma transparence envers eux produit un plus grand respect envers moi. Cela m'étonne toujours, mais il en est bien ainsi dans ma vie de parent. Lorsque je marche humblement avec mon Dieu en obéissant au Saint-Esprit, je remarque que mes relations avec mon épouse et mes enfants atteignent un équilibre vraiment agréable et reposant. Mais lorsque je manque de foi ou de patience, lorsque je prends les choses en main pour faire à ma façon, toutes mes relations s'en trouvent affectées. Mon esprit s'agite et tout devient lourd à porter. Toutes mes relations deviennent très compliquées, trop compliquées. Alors je m'en remets à Dieu pour m'aider à bâtir des relations saines avec mes enfants et avec les autres en position d'autorité autour de moi. Et Dieu me donne toujours la force pour faire ce qu'il me commande dans sa parole. Toujours. Dieu me donne la force que je n'ai pas en moi pour faire sa volonté.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement, on est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire, et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous, parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.